Bonjour Thierry et Lana Jourdan, vous êtes les fondateurs de l'agence Studio One, agence de production audiovisuelle depuis maintenant une vingtaine d'années. Vous réalisez des productions vidéo dans différents secteurs d'activité. J'ai lu qu'il y en avait plein, on va pas tous les faire, mais j'ai vu un peu dans l'agriculture, dans l'assurance, dans le TP, des spots pub, prise de vue aérienne, enfin vous êtes multitâche.
Oui voilà, on fait des films publicitaires, institutionnels, fiction, dans tous les secteurs d'activité, on les a tous fait quand même.
Tout ce qui touche à la production vidéo, vous êtes là, on peut vous appeler et vous êtes lancé un nouveau défi il y a 2 ans, donc en 2022, avec un film, cette fois un peu plus long, un nouveau défi pour vous, créer votre propre film.
Tout à fait, oui. C'est un film documentaire qui fait 52 minutes, donc il a un format télé. Habituellement, on faisait des films relativement courts, entre 3 et 4 minutes, qui étaient diffusés uniquement sur Internet. Ou éventuellement lors d'assemblées générales ou de réunions informatives. Donc c'était vraiment de l'institutionnel pur et dur, quoi, la plupart du temps, donc pour du BTP, des banques. Donc, il y avait des films publicitaires aussi, pour des hôtels, des restaurants, enfin, des services et des produits, quoi.
Mais c'était plutôt format court, et là vous êtes passé vraiment sur une production documentaire, pour le coup, quasiment une heure.
Ouais, court, et puis que sur Internet la plupart du temps, quoi, 90% du temps. Et là, maintenant, en fait, on s'est dit, pour plein de raisons, on veut faire plus long, et surtout...
Voire plus grand.
Oui, voilà, plus long et plus grand, voilà. Pour plein de raisons, hein, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que plus l'écran était petit, la taille de l'écran est petite, moins le taux d'attention était long. Notamment sur nos chaînes YouTube et TikTok, les films de 3 minutes, il y a plus de 40% des personnes qui le regardent moins de 5 secondes.
Oui, puis on reviendra tout à l'heure, ça faisait partie de mes quelques questions, mais c'est que le public visé par rapport à certains spots promotionnels ou en tout cas dans des secteurs d'activité privée par rapport du coup à ce film documentaire est pas tout à fait le même, on le verra tout à l'heure au final.
Tout à fait, oui.
Pour résumer trièvement, donc vous l'avez dit, c'est un film documentaire, ça s'appelle La vie de Lise. 18 mois, Lise et ses parents surtout apprennent qu'elle est atteinte d'une tumeur, donc c'est un peu le résumé de cette histoire qui est vraie. Pour moi, ma première question c'est comment ça a commencé, en fait, avant de tourner ce documentaire? Comment vous avez eu cette idée de réaliser ce documentaire? Est-ce que c'est parce que vous en aviez marre, justement, de ces productions, peut-être dans le privé? Comment vous l'avez rencontré, Lise, et d'où vient cette idée de documentaire? Comment ça a germé?
Ouais, Gaëtan, vous avez vu juste, en fait, on avait un peu marre, en fait.
C'est vrai?
Ouais, on avait un peu marre de faire des films courts, parce que c'était... Il y en a qui étaient vraiment très bien, hein, je veux dire, il y en a qui sont ils sont super bien faits. Enfin, quand je dis super bien fait, j'ai la prétention quand je dis ça, mais ça passe bien, quoi, je veux dire, pour du film court, c'est vraiment, voilà, on avait mis les moyens derrière, c'était, mais la déception venait du fait qu'on avait peu de visibilité, mais c'était pas trop par rapport à nous, mais c'est surtout par rapport à nos clients, parce que c'est des films qui sont quand même assez onéreux, et nos clients, vous voyez, ils avaient 300, 400, 1000 vues, ce qui est rien, quoi, sur Internet, 1000 vues, ça n'existe pas, quoi, donc on s'est dit, bon, on veut changer notre fusil d'épaule, et surtout, apporter, plutôt que de vendre un service ou un produit, on veut poser une question sociétale, c'est l'objectif en fait des documentaires, quoi, sans forcément répondre à la question, mais interpeller les gens, les faire réagir et les faire s'émouvoir. Donc pour ça, 3 minutes c'est possible, mais c'est
un peu court.
Ouais, c'est un peu court, et c'est pas du tout la même façon de travailler. Un film documentaire, ça se tourne sur 2-3 ans en moyenne, enfin, pour nous, hein, en général, parce qu'il faut suivre l'évolution de la vie des personnes. Et donc, pour répondre complètement à votre question, on avait fait un benchmark, en fait, de sujets qui pouvaient être intéressants pour nous. Il y a des films, la plupart du temps, c'est des problématiques sociétales. Donc, on avait coché quelques associations qui étaient autour de nous. Et c'est vrai que je connaissais déjà la fondation Frédéric Guélian parce que j'avais failli travailler pour eux à un moment donné, par l'intermédiaire d'une banque qui était un de leurs partenaires, ils voulaient les mettre en avant. Ça, c'était pas fait, je les connaissais. J'avais toujours en moi cette envie de rencontrer des personnes malvoyantes, déficientes visuelles, parce que je trouvais qu'elles avaient un sens en moins que le nôtre, qui était la vue, mais je trouvais que les 4 autres sens étaient exacerbés par rapport à nous, quoi, et qu'ils étaient vraiment carrément en avance, quoi. Alors, on a décidé de rencontrer la Fondation Frédéric Guélian, ils nous ont accueillis très rapidement. Au début, ils se posaient la question, ils n'avaient pas bien compris vraiment ce qu'on voulait faire, ils croyaient que c'était un film payant, mais non, c'était une prod, quoi. C'est nous qui faisons la prod. Donc une fois qu'ils ont bien assimilé ça, Chantal Roubaud, sa directrice, nous a fait une pré-sélection, elle a fait un casting en fait en interne, quand on lui a exposé en fait notre recherche. Et je la remercierai jamais assez d'avoir choisi Lise, parce que c'était vraiment la jeune fille parfaite.
La perle rare.
Ouais, elle est vraiment extraordinaire, Lisette. Quoi. C'est vraiment une chouette gamine. Quoi. Elle est rayonnante, pleine de vie. Elle a des yeux qui sont magnifiques. Elle est hyper active, super sensibilité émotionnelle, intelligence émotionnelle, intelligence rationnelle. C'est une très bonne élève à l'école. Elle est vraiment, elle s'arrête pas du matin au soir. Je veux dire, cette tournée avec elle, j'ai pris 10 ans, 2 ans.
Comment on met en place, maintenant qu'on a un peu le contexte, un documentaire comme ça? Alors, vous vous êtes rapproché de la fondation, mais du coup, vous avez expliqué, c'est ce que je viens de comprendre à la fondation, que c'était pas à leur charge, que vous leur ameniez presque l'idée, le produit, le matériel, mais que vous avez besoin plutôt d'eux pour vous amener justement cette perle rare. Comment, alors c'est peut-être indisqué, mais comment on finance un film comme ça aussi, parce que ça fait, c'est comme tout le monde, c'est le nerf de la guerre. Comment on met en place un documentaire comme ça?
On a eu la chance en fait de pouvoir mettre de l'argent de côté pendant quelques années. Et c'est une super question que vous posez en fait, parce que si on avait choisi de faire une fiction, c'est plus du tout la même histoire, parce que la fiction, il faut des acteurs. On en a eu fait des fictions avec des acteurs qui étaient des copains, qui étaient pro, semi-pro, etc., et qui faisaient ça gracieusement. Mais on peut pas dire à des potes pendant 3-4 mois.
On vous fait travailler sans rémunérer.
Voilà, sans rémunérer. Et puis la fiction, c'est quand même différent.
C'est plus de production, plus de post-production aussi.
Ça dépend le script, hein. On peut faire simple aussi, hein, mais ça fait rien. Il y a quand même des acteurs qui voilà, ça n'a rien à voir en fait. C'est à la fois plus facile, la fiction, que le docu, mais c'est aussi un petit peu plus compliqué, quoi. Donc, pour avoir fait pas mal de fiction, c'est surtout en fait au montage que le documentaire est beaucoup plus complexe, quoi. C'est vraiment... pour la bonne raison, c'est que quand on tourne des scènes en docu, on ne sait pas si on va les utiliser ou pas, quoi. Il y en a tellement et on a énormément de pertes. Par exemple, dans une fiction, on a notre script, c'est lui en fait...
Et on suit le script.
Voilà, on le suit au montage, quoi. Et on sait qu'en gros, les deux dernières séquences, c'est celles qu'on va choisir, parce que si on a découpé, c'est qu'on avait ce qu'il fallait dans la boîte. Alors que là, non, là, on filme la vie, quoi. Donc ça veut dire que...
On prend ses caméras, son matériel, le micro, et on y va en film et on verra... Après, ce qu'on peut tirer, ou ce qu'on fera, ou ce qu'il y aura.
Oui, voilà, complètement. Alors là, avec Lise, il y avait quand même trois grands axes qui étaient, c'était pas un fil rouge, mais il y avait quatre vraiment jalons importants. C'était avant le chien guide, pendant la formation et après la formation, puisque la suivi une formation, c'est ça un peu le pitch du film. C'est une jeune fille qui suit une formation pour, une jeune fille malvoyante qui suit une formation pour obtenir un chien guide d'aveugle auprès de la fondation Frédéric Guillaume. Donc on avait ces trois axes là, mais qu'est-ce qu'on met au milieu, quoi, une fois qu'on a dit ça, hein? Et ce qu'on voulait montrer, c'était vraiment sa vie au quotidien, avant, pendant et après, les gens qui l'entourent, les difficultés qu'elle peut avoir, ses joies, ses peines, etc.
Et parce que par rapport au film de fiction, là, ce ne sont pas des acteurs. On est vraiment dans le quotidien avec ses amis, sa famille et le quotidien en fait, de Lise, de sa vie du moment.
Exactement, et c'est ça le truc en fait, du docu. C'est que vous ne pourrez jamais avoir des acteurs aussi bons que les vraies personnes qui sont dans leur vie. Quoi. C'est impossible.
Ah oui, c'est pas comme quand on voit des films qui sortent, alors qui sont très bien, notamment sur des biopics, mais ça n'a pas le même charme d'un vrai documentaire avec... On est dans l'intimité, en fait, de cette famille.
Oui, plus on est dans l'intimité, plus on se rapproche de la vie.
Est-ce que ça n'a pas été... alors, je pense que non, à vous entendre, mais ça n'a pas été difficile de convaincre cette famille pour tourner ce documentaire? Ça s'est fait naturellement? Ils étaient partants tout de suite?
Non, ils étaient partants parce qu'en fait, Lise veut faire une carrière de chanteuse ou d'actrice, etc. Donc elle est partie à fond la caisse, quoi. C'était hyper content.
Tout de suite, ça l'a branché.
Ouais, vraiment de suite. C'est bon, après, comme elle était mineure, c'est quand même les parents qui ont décidé. Et forcément, une famille de parents dont l'enfant est handicapé, bah, ils font tout pour faire connaître leur situation auprès du plus grand monde, parce que ça les a fait souffrir dans leur chair. Maintenant, ça va mieux, certes, mais ils veulent communiquer dessus pour montrer que, voilà, malgré les difficultés, malgré les peurs, malgré les moments très difficiles, ben voilà, on continue à combattre et puis on arrive à se serrer les coudes et puis on avance, quoi.
Et alors, on le disait, on en parlait un petit peu avant cette interview, mais aussi au début, c'est un film qui s'adresse pas du tout aux mêmes personnes avec qui vous travailliez au début. Déjà, c'est un film que vous avez réalisé pour les voyants, mais aussi pour les malvoyants, comme cette histoire, elle les touche. Et un film que vous avez voulu pour sensibiliser les jeunes et sortir de ce cadre privé, en faire un film accessible à tous.
Oui, tout à fait, oui, parce qu'il est sous-titré et en audio description. Donc, en fait, les personnes déficientes visuelles ou malentendantes peuvent voir le film dans les cinémas et il est sous-titré avec une application qui s'appelle Greta, qu'ils ont sur leur téléphone et qu'ils peuvent avoir l'audio description et la description des scènes du film pendant que le film est diffusé dans le cinéma. Donc, ça, c'est important, en fait, aussi, quoi, parce que voilà, ce film, il est pour Lise, certes, il est pour la Fondation, mais il est aussi pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Et je dirais même les jeunes aussi, les jeunes qui ne sont pas souvent toujours concernés par ça, puisqu'ils sont dans leur vie, ils sont dans le fun, dans l'amusement, ils profitent de la vie, de l'instant présent, on ne se pose pas trop de questions sur ce que peuvent devenir les choses. C'est des généralités, est-ce que je dis, mais... Donc là, le film va être diffusé lors de journées scolaires auprès des écoles, en fait, des cinémas dans lesquels il est à l'heure actuelle diffusé.
Et parce que c'est ce qu'on disait aussi avant l'interview, c'est que vous avez toute la partie on filme, on produit, mais il y a la partie après, le film est prêt, il faut aller démarcher des cinémas partout en France et le faire découvrir au plus grand nombre. Et ça, c'est une partie qu'on ne pense pas forcément.
Oui, mais moi, ne serait-ce qu'avant de le faire, je pensais au début qu'on avait trouvé il s'avère que c'est compliqué des distributeurs, enfin pour plein de raisons, je vais pas rentrer dans le truc, hein. Mais on s'est dit bon, c'est tellement compliqué un distributeur, on va distribuer nous-mêmes. Et là c'est pas une histoire, parce que c'est vraiment un métier à part entière, hein. Ça veut dire contacter les cinémas, voir comment on le fait, quand on le fait, il faut pousser fort pour avoir de la place, parce qu'on n'est pas les seuls, hein. On lutte contre des affiches de 4x3 qui sont diffusées dans la France entière, et nous, on est avec nos petites affiches à 4 imprimées avec notre imprimante à jet d'encre, à une petite flyer. Mais bon, ça va, on a réussi à en avoir une quinzaine pour l'instant. Et en gros, le film a été diffusé une vingtaine de fois. Donc, c'est un très bon début. Et puis, on va continuer après en 2025, quoi.
Donc, c'est un film qui est plutôt bien parti. Est-ce que, on parlait de la Fondation Frédéric Gallienne tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus le rôle de cette fondation, son accompagnement pour les personnes malvoyantes?
Oui, alors les parents, en fait, qui ont un enfant malvoyant, contactent la fondation. Il y a une étude qui est faite par la directrice donc, du pôle enfant, qui est Chantal Robot, et ils voient si le jeune peut avoir suffisamment de maturité pour pouvoir... être le maître de son chien, parce que le chien sera vraiment lui, il sera pas aux parents. Donc c'est la seule école de chien guide pour enfants aveugles et malvoyants en Europe. Ils accompagnent les jeunes, en fait, il y a à peu près 2 ans de formation. Il y a beaucoup de pré-classes qui se font pendant les vacances scolaires la plupart du temps. Donc il y en a une en février, il y a une en vacances de Pâques, il y en a une au mois de juillet, après encore une en octobre. Donc les enfants viennent entre 4 et 6 fois pour s'aguerrir à la maîtrise en fait du guidage par le chien et puis au respect des ordres, etc. Et au bout de une année et demie, on va dire, quoi, le chien est remis. Mais il y a des enfants qui passent pas le cap, hein. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ne considèrent pas assez mûr. Donc
c'est pas gagné, c'est pas acquis. C'est-à-dire que ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire.
Oui, bien sûr. Et là, avec Lise, ça a joué sur sa maturité, parce qu'elle a une maturité extraordinaire, quoi. Moi, j'avais l'impression d'être avec une adulte, alors que c'est une jeune demoiselle de 12 ans, quoi. Quand on l'a connue, elle avait 11 ans et demi, quoi.
Alors, on va pas spoiler, hein, tout le documentaire, mais c'est l'objet, en fait, de ce documentaire. C'est l'alchimie entre Lise et son chien, et c'est aussi la transformation, le changement de vie grâce à cette fondation et grâce à ce chien guide pour les enfants.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, c'est-à-dire que avant, Lise travaillait. Lise restait chez elle, faisait ses devoirs chez elle, sortait très peu. Et chaque fois qu'elle sortait, c'était avec quelqu'un qui la tenait au bras. Et là, du jour au lendemain, elle prend son chien, en l'occurrence c'est une femelle qui s'appelle Réglisse. Et elle trace, elle va au cinéma. Moi, je reste avec ses copines, elle prend le bus, elle prend le train, et ça a changé sa vie, quoi. Voilà.
C'est une libération, ce chien guide.
Ouais, ouais, complètement. Et ça le fait pour tous, ça, je veux dire. Ils sont tous super épanouis après. Ça... Ouais, vraiment, c'est leurs yeux, quoi. C'est, ça devient leur ami, ça devient leur confident, ça devient. Ouais, c'est tout pour eux, quoi. Voilà. Ouais, c'est magique à observer, quoi. Vraiment, quoi. C'est vraiment ce que fait. La fondation, c'est extraordinaire, quoi. C'est d'utilité publique, quoi. Pour tous ces gamins-là, c'est vraiment génial, quoi.
On parlait tout à l'heure des moyens pour ce film. On parlait notamment de certaines grosses productions. Vous, finalement, vous avez été une équipe de deux, et c'est un peu ce qui est bluffant, c'est que à deux, on peut quand même faire un très beau documentaire. On peut aussi avoir une vingtaine de nominations, et pas seulement en France, à travers le globe. Je crois que vous avez reçu 7 récompenses, a priori, en tout cas aux dernières infos que j'avais, aux États-Unis, en France, et j'ai même cru comprendre en Inde. C'est fou d'avoir des récompenses à travers le globe. Est-ce que c'est un peu inespéré?
Oui, 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 j'y croyais pas. En Inde, j'hallucinais, quoi. Je me disais, mais je crois que c'est exotique pour eux, les chiens guides et la Provence. Donc...
Bah, c'est mais là ouais, où on se rend compte la portée de votre documentaire, en fait, qu'il est vraiment d'utilité publique et qu'il touche partout dans le monde.
Oui, oui, voilà, ouais, c'est super. Et puis bon, on a fait ce choix de le faire à deux. Et je veux saluer, en fait... ma femme, Svitlana Jourdan-Bagayeva, en fait, qui est d'origine, non, elle est ukrainienne, donc on est mariés depuis 5 ans maintenant. Et elle était journaliste à la télévision ukrainienne, et en fait, elle a appris le français pendant le tournage, quoi. Donc imaginez un peu comme c'était un peu rock'n'roll pour elle, quoi. Donc, ça veut dire que, voilà, on l'a fait à deux, mais des fois, il fallait que je fasse aussi la traduction en anglais, parce qu'au début, on parlait en anglais, parce que c'est voilà, un documentaire, il y a de l'humain, donc il fallait... Donc là, voilà, là, elle a commencé à apprendre le français au début du documentaire. Quelle performance.
À Paris, réussi, toucher un maximum de personnes avec donc ce film qui a voyagé, qui vous a fait voyager. On va se retrouver, nous, donc, pour une prochaine projection. Ce qui nous concerne, ça sera au cinéma Le Balzac de Château-Renaud. Ça sera le jeudi 12 décembre à 20h30. Vous y serez présents, je crois.
Oui, bien sûr, on sera présent, on sera accompagné d'une amie que l'on avait interviewée il y a peut-être 10 ans, non, c'était en 2019, ouais, on avait fait une émission, une espèce de podcast sur YouTube qui s'appelait Être humain, où on interviewait toutes les personnes en fait, qui nous semblaient être intéressantes et qui avaient des parcours de vie atypiques. Et Elisabeth de Caligny est une youtubeuse en fait, qui fait pas mal de podcasts sur sa chaîne YouTube où elle raconte des histoires à la fois historiques, des histoires qui ont de l'ordre de l'étrange, du paranormal, etc. Et on est restés amis pendant toutes ces années. Et elle n'arrête pas de me dire « mais je veux voir le film, je veux voir le film ». Je dis « non, mais je ne vais pas te l'envoyer par lien Vimeo, je veux qu'on le voit ensemble ».
Il faut venir le voir en salle.
Et comme elle habite à côté de Château-Renaud, j'ai dit ben, « banco », donc en fait, elle sera l'invité d'honneur de la soirée, et elle viendra sur scène aussi pour débattre un petit peu avec tout le monde. Il y aura aussi la présence d'un jeune avec son chien guide pour, après la diffusion du film, que les spectateurs puissent poser à tout le monde un petit peu des questions, quoi.
Eh bien, on s'y retrouvera. Alors, ça sera le 12 décembre à 20h30 au cinéma Le Balzac à Château-Renaud. Est-ce que Studio One, Thierry, Lana, vous avez d'autres projets? Alors bon, on est encore en plein dans la promotion de ce film, mais est-ce que ça vous a donné envie de faire d'autres documentaires?
Bah oui, mais grave, quoi. C'est ça qui est terrible. L'autre jour, j'étais dehors, je fumais une clope, j'ai pas le droit de le dire, mais on sait pas. Je fumais une cigarette électronique, ça se voit pas, il n'y a pas la marque. Je me disais, mais ça y est, il faut 2-3 ans pour faire un docu, mais tu aurais dû commencer vachement plus tôt, parce que d'ici que tu sois encore sur pattes, tu vas en faire 3 maxi, quoi. C'est pas tout, tu pourras pas en faire plus. Et ben, donc, on a anticipé, pour répondre à votre question, au même moment où on a commencé la vie de Lise, j'ai dit à Lana, je dis, bon, attends, celui-là, il va durer 2-3 ans, parce qu'on savait qu'en fait, la formation durait 2-3 ans, il faut qu'on a choisi un autre. Et ben, en fait, on a choisi 2, voire 3 autres, donc on a commencé pratiquement le tournage d'un autre au moment où Lise commençait à être tournée, la Lise. Et on s'est rapproché d'une abbaye cistercienne qui a 12 sœurs qui vivent et qui travaillent là-bas. Donc ça fait 2 ans qu'on les suit, elle aussi, un peu plus, 2 ans, 3 ans même déjà. Et donc on y retourne la semaine prochaine pour interviewer et faire une journée de tournage avec la mère de l'abbaye. Puis après, il va y avoir des tournages en immersion où on va vivre avec elle pendant 2 fois 5 jours à peu près. Et le troisième, on l'a commencé samedi dernier. Et là, la thématique, c'est l'handicap et l'amour. Parce qu'on s'est rapproché d'une association qui s'appelle le Moulin de l'Arche, qui est pas très loin de chez nous, à Issoire-Sorgue, qui nous a présenté 8 couples d'handicapés, de personnes en situation de handicap. Moi, c'est un mot qui me gêne un peu, l'handicap, parce que franchement, quand je discute avec eux, je vois pas de handicap, je me trouve plus handicapé moi qu'eux, des fois, quoi. Donc, je veux dire, c'est des personnes qui sont dans un centre d'aide par le travail, on va dire, voilà. Et ils sont fabuleux, quoi. Ils sont vraiment, donc on a commencé la première journée de tournage, c'était samedi dernier. Et figurez-vous que cette journée de tournage, c'était le mariage d'un couple qui doit avoir 55, 57 ans. Et ils avaient décidé de se marier dans l'église de l'île sur la Sorgue. Donc on allait tourner la première scène du film.
On peut pas mieux rêver, presque.
Ouais, voilà, ouais.
Bon, donc on devrait vous voir revenir bientôt, alors après ces tournages, ces productions, et puis après donc cette vie de Lise. Alors moi je voudrais revenir dessus parce que je pense que c'est quand même flagrant, mais quand on m'a présenté ce documentaire, la première chose moi qu'on m'a dit c'est « ne vous inquiétez pas, c'est pas un film triste, au contraire c'est un film rempli d'espoir, de bienveillance ». Je trouve que c'est assez incroyable en fait, on libère le tabou sur, comme vous venez de dire, ce handicap, alors pour les malvoyants, mais du coup pour le suite de vos productions sur tout le handicap en général, c'est quand même génial.
Il y a un grand message en fait dans ce film qui se dégage, mais c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en fait quand on le fait, qu'on s'en rend compte à la fin. Et en fait, il y a 2 messages qu'on construit peu à peu, hein, qu'on conscientise au fur et à mesure. Moi, il y en a un qui m'a marqué, c'est que je trouve que c'est nos différences en fait qui nous rassemblent, parce que si on est toujours en fait dans une espèce de communauté avec tous les gens qui pensent comme nous, qui font exactement comme nous, enfin je sais pas, c'est un bon moment, enfin, on se retrouve comme un supporter à encourager une équipe sans rien comprendre à ce qui se passe, et c'est pas intéressant, quoi, je veux dire, enfin moi ça me... Je m'ennuie, enfin, des gens qui sont à 100% comme moi, je m'ennuie, quoi, j'ai besoin de dynamique pour que la vie elle devienne un peu voilà, pétillante, parce que c'est l'autre qui est intéressant, quoi. C'est
un peu rock.
Et l'autre chose aussi, je dirais, c'est que c'est un film qui s'adresse à des personnes qui sont dans le noir, et Lise est dans le noir pratiquement. Tous ses enfants de la Fondation Frédéric Gagnon vivent dans le noir, et on se rend compte en les côtoyant que la vraie lumière, elle vient vraiment de l'intérieur, quoi. Voilà.
C'est un film qui les met en lumière quelque part.
Ouais. Ouais. Et c'est un film qui est rempli d'espoir. Moi, je vais vous faire une confidence, en fait. Le film, on l'a vu avec Lana, on a dû le voir, je sais pas, 30, 40 fois, enfin, peut-être plus, parce qu'on l'a monté, on a mis 3, 4 mois pour le monter. Lana, elle a travaillé encore plus, parce qu'elle a sélectionné les rushs avant de le monter, donc elle a fait 3 mois de plus qu'au mois dessus. Donc le film, on connaît par cœur, hein, je veux dire, sans avoir appris les dialogues, mais sans l'avoir appris, je peux vous le réciter du début jusqu'à la fin, je le connais sans l'avoir appris, quoi. Et il y a une scène à la fin qu'on a vue, je sais pas, 30, 40 fois, quoi. Et quand on la voit au cinéma, comme nous, on monte après juste sur scène, en fait, pour aller échanger avec le public, la dernière scène, je ne la regarde pas, je me bouche les oreilles.
Carrément, donc ça fait bien le lien, mais on sent en fait que ce film et votre vision du handicap, elle a complètement changé.
Ouais, elle a changé, surtout, alors j'avais déjà fait moi une formation d'éducateur spécialisé, donc j'avais fait des stages un peu dans un CAT et puis dans un foyer d'accueil. Donc j'avais un petit peu d'expérience par rapport à ça, je dirais. Et là, c'était vraiment la première fois que je voyais j'étais en contact avec des personnes malvoyantes, déficientes visuelles. Et ils m'ont donné, en fait, ils m'ont conforté dans une idée que j'avais déjà un petit peu. C'était que vraiment, nous, on est hyper influencés par ce qu'on voit. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est la vérité. Voilà. Et des fois, c'est très, très superficiel, l'image. Parce qu'en définitive, même si on voit en 3D, une image peut cacher une image. Et on fait moins attention, en fait, à tous les autres sens qui sont autour de nous. Après la vue, il y a l'ouïe, quand même. On est relativement sensible à l'ouïe. Mais tout ce qui est de l'ordre du toucher et de l'odeur, par exemple, c'est des choses qu'on laisse un petit peu de côté, qui sont voilà, un peu moins, qui indiquent un peu moins les informations qui transportent. Et chez ces personnes malvoyantes, en fait, ils font hyper attention. Moi, je vois par exemple Lise, j'avais pas de tac. Vous voyez, un truc tout simple, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous le voyez, vous le reconnaissez si vous avez le souvenir de son visage.
Ouais.
Eux, par exemple, ne le voient pas.
Ouais, donc ils ont forcément. Faut trouver d'autres moyens, de techniques pour se rappeler et reconnaître les gens.
Et les hommes, le premier moyen qu'ils ont, c'est le ton de la voix, la hauteur de la voix, la présence de la voix, et de suite, ils savent qui s'adresse à eux.
Je dirais que c'est presque assez contrastant, puisqu'en fait, on pourrait se dire, nous qui sommes bien voyants, en fait, c'est presque comme si on avait des œillères, finalement, et qu'on passait à côté de tous nos autres sens, et eux, à l'inverse, qui sont malvoyants, c'est comme si eux n'avaient pas d'œillères, et finalement, ils surdéveloppent, ou ils développent, en tout cas, beaucoup mieux que nous, tous leurs autres sens.
Mais c'est exactement ça, quoi.
Merci Lana et Thierry Jourdan, vous êtes donc les réalisateurs du film La vie de Lise, un film qui sera retrouvé dans pas mal d'autres salles. Et donc pour notre part, on se retrouvera le jeudi 12 décembre à 20h30 au cinéma Le Balzac de Château-Renaud.
Merci à vous Gaëtan de cette belle interview.